Bonjour et bienvenue au coin de la table. Et bonne année, à ce qui paraît.
Bonne année !
Bonne année. Alors, bonne année, c'est déjà un petit peu occidentalo-centré. Hein. On pense pas au Nouvel An chinois. Enfin, c'est.
Voilà, donc bonne année au calendrier grégorien.
Puis les autres, on vous emmerde. Non, c'est pas ça. C'était pas ça aujourd'hui.
Ok, Guylaine, merci. Bon, voilà. Ça sera la podcast de la bonne ambiance. Et surtout, jouer bien. Non, alors un peu plus sérieusement, parce qu'on va, parler d'un sujet un petit peu sérieux, donc un sujet qui va être sérieux mais pas chiant, donc comme on l'explicitera, qui sera le jeu et la politique, le jeu et le message, le jeu et l'engagement. Donc on va expliciter un petit peu tout ça et puis on va vous expliquer de quoi on veut parler.
Alors, pour ce numéro, déjà, on va parler de jeux de rôle, certes, beaucoup, mais on va peut-être un peu plus que d'habitude s'aventurer côté jeux de plateau, jeux vidéo et compagnie, donc ne soyez pas surpris.
Un sujet large à ratisser, donc voilà. Il faut beaucoup, beaucoup de matière.
C'est ça. On va commencer par un petit côté définition. Donc là, aujourd'hui, on va vous parler principalement du jeu dans sa conception. Donc le jeu comme objet, comment est-ce qu'on fait pour créer un jeu à message, un jeu politique. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un jeu à message, qu'est-ce qu'un jeu politique. Donc on va peut-être vous parler un petit peu de la notion de serious game, un terme qui risque de faire peur à certaines personnes. Nous, on le définit comme un jeu dont la finalité première n'est pas le divertissement. Ah, déjà. Donc, c'est une définition qui est donnée par Julien Alvarez et Damien Djaouti dans le livre Introduction au Serious Game, et qui implique que quand même, même si ce n'est pas la finalité première, le divertissement, c'est quand même quelque chose qui est quelque chose d'important dans le jeu en tant que tel. Donc, en gros, c'est pas un jeu dans lequel on s'ennuie.
Je sais pas, un jeu divertissant, c'est un jeu dans lequel on s'ennuie?
Bah non, justement. un serious game, c'est un jeu dans lequel il y a aussi du divertissement, mais il y a aussi autre chose.
Est-ce qu'un serious game doit-on être ennuyeux ou non? Mais enfin, moi, c'est une définition qui me pose un tout petit léger problème. Alors bon, j'accepte, je la prends comme elle est, mais j'aime à penser que, et comme d'autres l'ont défini, que le jeu apporte forcément, en tant que média, apporte forcément son lot de connaissances,
d'engagement ou de messages.
Oui,
mais en même temps, la différence. Alors, en fait, vos deux propos sont tout à fait valides, puisque la seule nuance du serious game dans la définition qu'Aurélien en propose, c'est que c'est l'intention du créateur de transmettre d'abord un message. Et il crée le jeu dans l'optique de faire passer un message, quel qu'il soit, et ensuite de créer du divertissement dans un but plutôt second. Et aussi, on va préciser que pour ce numéro, on va utiliser le terme politique dans un sens très large, qui au final est aussi un sens assez sociologique, au niveau de la structuration d'une société, au niveau de politique comme un message ayant une portée sociale, que ce soit micro-société ou macro-société, ça peu importe, mais pas uniquement le politique du politicien, vous voyez,
de politique large. Plus de l'impact que savoir sur, par exemple, la vie quotidienne d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Voilà.
Tout à fait. Et donc, pour commencer par la partie, on va se diviser en deux parties. La première, ça sera les jeux qui veulent vraiment passer intentionnellement un message. Donc, les concepteurs se sont dit, on veut passer quelque chose par le biais de notre création. Et dans un deuxième temps, donc, pour rejoindre ce que disait Pascal, les jeux qui portent quand même un message, même si ce n'était pas nécessairement leur intention initiale. Quel est le distinguo? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Et donc, le tout, pour conclure cette introduction, avec une petite citation d'Alexandre Astier, que Guylaine va peut-être faire le plaisir de citer.
Tout à fait. Alexandre Astier, lors d'une de ses interviews télévisées, disait « On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. » Et ça, c'est quelque chose que je trouve très pertinent dans le monde du jeu, parce qu'on entend souvent dire « Oui, mais c'est pour s'amuser, moi, j'ai pas envie de me poser ces questions, je suis là pour me vider la tête, etc. » Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, et c'est pas parce qu'on s'amuse, c'est pas parce qu'on se repose, qu'on se divertit, qu'on doit complètement éteindre son cerveau et qu'on peut pas être réceptif à certaines choses, et notamment à certains messages que peuvent avoir envie de transmettre les jeux, même de manière inconsciente. Typiquement, l'une des choses les plus basiques qu'on peut se demander au niveau d'un jeu et ce qu'il va nous transmettre, c'est quel est le message qu'il va nous transmettre au niveau de l'organisation de la table. Est-ce que c'est un jeu coopératif ou compétitif? Est-ce que les gens avec qui se joue, il y a un gagnant? Ou est-ce qu'on doit tous bosser ensemble? Déjà, ça a une portée. Déjà, ça, en soi, c'est une forme de message qui est partout, qui est dans tous les jeux, parce que, grosso modo, dans tous les jeux, c'est soit il y a un gagnant, soit on joue ensemble. Et c'est pas parce qu'on joue qu'on ne doit pas réfléchir et qu'on doit se prendre la tête. Il faut vraiment faire bien ce distinguo, à mon sens. Aussi bien en jeu de société qu'en jeu de plateau, qu'en jeu de rôle, qu'en jeu de ce que vous voulez.
C'est ça, parce qu'il peut y avoir des expériences qui sont plaisantes, qui sont amusantes, mais qui malgré tout impliquent une certaine réflexion et un certain engagement. Donc pour commencer à parler un petit peu, par exemple, de jeux de société, hein, au hasard c'est moi qui en parle, donc on parlait de jeux coopératifs et de jeux compétitifs, il y a aussi les jeux qui sont un petit peu entre les deux, donc les jeux qu'on peut nommer par exemple coopétitifs. Ce type de jeu, on peut par exemple citer le jeu Les Naufragés du Titanic, qui est un jeu que j'aime bien citer, parce que le parti pris de ce jeu, c'est vraiment de dire, ok, vous êtes une bande de naufragés, hein, du Titanic, bien sûr, vous êtes sur un bateau, vous êtes un maximum de 6, quoi, les ressources sont rares, et en plus, vous avez envie de récupérer certains biens du Titanic, donc des portraits, des bijoux, des choses comme ça. Mais en même temps, vous avez aussi envie de survivre. Donc il va falloir que tous ensemble, vous arriviez à coopérer pour atteindre la rive, et pour pouvoir tous survivre les uns les autres, mais par contre, il n'y aura qu'un seul gagnant, et c'est celui qui aura le plus de points et donc qui aura ramassé le plus d'objets du Titanic. Donc c'est un jeu qui mécaniquement induit un certain nombre de conflits et qui sont vraiment résolus au cœur de la mécanique du jeu, où à tout moment un joueur peut s'opposer et dire je ne souhaite pas faire cette action, ou je voudrais que tu me donnes cet objet, ce à quoi un autre joueur peut dire non, je suis pas d'accord, et tous les joueurs peuvent choisir de prendre parti dans le conflit et de se foutre joyeusement sur la gueule. Parce qu'il y a aussi un système de pire ennemi et de meilleur ami qui donne encore plus de piment à ça. Donc là, l'intention du jeu, vraiment en termes de game design, c'est vraiment de produire une expérience dans laquelle on devait coopérer, mais pas tant que ça quand même. Enfin, ça dépendait des choix, un peu à l'instar de jeux comme Diplomatie. Où là, la politique ou l'engagement serait plutôt la notion de est-ce qu'on doit vraiment coopérer les uns les autres alors qu'on a des objectifs individuels au final.
Mais du coup, quand on a des jeux de ce type-là, quand on se met à la place du game designer qui a créé ce jeu-là, il s'est forcément posé la question de quel type d'interaction il veut créer entre les joueurs. Quel type de tension et quel type de questionnement il veut amener les joueurs à se poser. Forcément, on se dit, est-ce que je veux amener mes joueurs à se trahir les uns les autres? Est-ce que je veux qu'ils apprennent à coopérer ensemble, à se méfier en permanence? Donc déjà, ça induit un climat autour de la table qui dépasse le simple divertissement, qui va aussi, à mon sens, un petit peu plus loin, sans pour autant être méchant ou engagé de manière très explicite. Mais pour autant, est-ce que tu qualifierais ces jeux de serious game?
Pas dans le cadre du Naufragé du Titanic, pour le coup, parce que le message qui souhaite être passé par le jeu n'est pas nécessairement un message qui apprend quelque chose ou présente quelque chose. Donc on serait plutôt dans notre deuxième catégorie de jeux qui transmettent quelque chose non intentionnellement.
Oui.
Si on veut un jeu qui soit plus un jeu qui transmette un message de façon assez claire, alors un peu de façon tarte à la crème, on va dire, le gag que tout le monde attend, on peut parler du jeu de société Secret Hitler. Donc c'est un jeu d'identité secrète dans lequel un des joueurs plus exactement, va jouer Hitler, va secrètement être Hitler. Et donc le but de Hitler et de ses alliés secrets fascistes, c'est de faire passer un maximum de lois fascistes ou alors de faire en sorte qu'Hitler soit élu chancelier. Là où les libéraux, qui sont présentés comme les personnes gentilles, puisque les lois qui passent sont des lois qui sont plutôt sympas, contrairement aux lois fascistes, sont des gens dont le but c'est soit d'assassiner Hitler pour empêcher que le mal se propage, ou alors ne pas faire passer des lois libérales. Donc là, on est en présence d'un message qui est très clair, qui est tout simplement le fascisme, c'est le mal, Hitler, c'est le mal, donc c'est vraiment présenté comme tel, et les libéraux sont le bien. Donc c'est un message qui est donné aux joueurs, qui est très clair et qui n'empêche pas le jeu d'être fun. Et pour l'anecdote intéressante, Le jeu peut être personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut par exemple modifier Hitler par d'autres personnages comme par exemple Donald Trump ou alors le Père Noël, pourquoi pas.
Il y a des stickers qui sont livrés avec la boîte de base.
C'est ça. Donc là, on change vraiment le cœur du message qui est transmis par le jeu. Et là, à mon sens, on touche effectivement peut-être cette notion de serious game, où on a un jeu qui est fun et divertissant, mais dont une finalité est également de transmettre ce message fort par rapport au fascisme, au final.
Est-ce que, par exemple, tu dirais que Papers, Please, c'est un serious game ?
C'est un vaste sujet.
Oui.
Papers, Please, de ce que l'auteur, donc Lucas Pope, donc pour résumer Papers, Please, hein, c'est un jeu vidéo dans lequel le joueur va incarner un garde frontière qui va dire si des personnes peuvent entrer ou pas dans le pays.
Il vérifie les papiers et voilà, s'assurer que les papiers en règle. Donc un jeu à la fois qui parle de l'administratif et bourbier administratif, je me répète. Et de tout ce que ça engage aussi d'un point de vue moral sur certains trucs.
Oui, parce qu'on a parfois des instructions de dire bah, ne le laissez pas passer telle nationalité, alors qu'on apprend par les news que telle nationalité est dans un pays en guerre et la personne dit bah, s'il vous plaît, si je passe pas, je vais me faire tuer dans mon pays. Et à côté de ça, le joueur est confronté à des choix qui sont bah, une fois que sa journée de travail est terminée, il va utiliser l'argent récolté pour acheter des médicaments pour sa famille ou des choses comme ça. Donc s'il respecte pas suffisamment les règles induites par le jeu, eh bien la famille du personnage va être pénalisée et va risquer de mourir.
Est-ce que c'est possible de corrompre le garde aux frontières?
Justement, c'est un truc intéressant. À un moment, tu as des... Alors, tu joues pas vraiment un garde, tu es plus un fonctionnaire. Par contre, tu as des membres de la police à un moment qui viennent te voir et qui disent « Moi, je reçois une prime quand j'arrête des gens. » Et donc, si tu fais arrêter plus de gens, si tu me demandes d'arrêter plus de gens, je te filerai un pourcentage sur la prime. Et en même temps, t'as effectivement, après ta journée de travail, tu vois que voilà, t'as ton fils qui est malade, il a besoin de médicaments, mais t'as pas assez.
Donc déjà, ça se passe pas en France.
Non, c'est dans un... non. Ça se passe dans un pays fictionnel inspiré de l'ex-URSS.
D'accord. Mais pour moi, là, on... Moi, alors, bon, je n'y ai jamais joué, mais de ce que vous me décrivez, ça ressemble quand même vraiment à un serious game, parce que... On a quand même l'impression que le but premier du jeu, ça va être de se mettre à la place de ces situations, de créer le dilemme moral tel qu'il existe dans la vraie vie, et de reproduire un vrai dilemme moral à travers du jeu.
Ça, c'est clair. Après, voilà, peut-être que l'auteur ne veut pas se définir comme politisé.
D'accord.
Et oui, c'est bien ça le petit débat autour de Papers, Please, c'est que donc l'auteur Lucas Pope ne définit pas son jeu comme un jeu comme un serious game ou comme un jeu politique en fait, mais il le décrit comme une expérience fondamentale et pas comme un jeu qui porte un message en tant que tel.
Donc. Mais ce qui est étrange, parce que quand même le jeu, enfin pour moi c'est un peu le nez au milieu de la figure, quoi, que il y a clairement un côté humaniste, on va dire. À être dans l'empathie, dans des questionnements très contemporains en plus. Enfin, voilà, les questions d'immigration et compagnie.
Alors, le jeu a été fait il y a 3-4 ans, ouais, il me semble, peut-être un peu plus. 2012.
Okay. Oui, bah, c'était déjà des questions très, très contemporaines.
Nous, en France, par exemple, on est en plein dedans, donc je pense que ça pourrait ressortir tout de suite. Il pourrait ressortir le jeu, il aurait un truc. Alors, moi, ça me fait penser à quelque chose, alors pas du jeu, mais Franz Kafka et Le Procès.
Ouais.
Post-URSS et post-Seconde Guerre mondiale, le procès a été revisité, réinterprété comme une critique acerbe et une dystopie extrêmement flippante et des choses comme ça. Sauf que quand Franz Kafka a écrit le procès et qu'il le faisait lire à ses potes, ils étaient tous morts de rire. C'était une vaste farce.
Ça alors ? Je ne savais pas.
Donc l'intention initiale de Kafka, c'était pas d'être un ouvrage de dénonciation, en fait.
Il voulait quand même dénoncer le fameux bourbier administratif dont je parlais plus tôt, mais ça n'était pas non plus un ouvrage qui était à but de viser les dictatures et le fascisme, etc.
C'était une satire ?
C'était une satire amusante, mais faut dire que Kafka l'a écrit du coup avant que la Seconde Guerre mondiale, et donc avant l'URSS, avant l'Allemagne nazie, etc. Avant les goulags.
Et bon, donc à l'opposé, si on veut citer, donc on va encore un peu s'aventurer dans le monde du jeu vidéo pour cet épisode très spécial, mais si on veut citer un jeu vidéo qui a vraiment été conçu comme un jeu politiquement engagé qui porte un message et qui est assumé tel quel, on peut citer donc notamment tous les jeux de la Mole Industria, qui est un créateur de jeux engagé, sur une tendance un petit peu satirique, et également le fameux September 12 de Gonzalo Frasca, donc September 12 qui est sorti quelques temps après le 11 septembre, qui était une expérience flash dans lequel qui commençait par dire ceci n'est pas un jeu, vous êtes derrière le viseur, vous pouvez choisir de tirer ou pas. Et on incarnait un grand viseur dans un village qui est rappelé donc le Moyen-Orient, un village dans un environnement un petit peu désertique, dans lequel il y avait des bâtiments, des villageois et des villageois habillés en noir qui rappelaient donc peut-être des terroristes, qui sait. Et on pouvait, grâce au viseur, envoyer des bombes. Sauf qu'envoyer une bombe, forcément, le viseur était beaucoup plus gros que le terroriste, donc les dommages collatéraux étaient absolument inévitables. Si le joueur choisissait de tirer, les dommages collatéraux faisaient que, certes, le terroriste pouvait potentiellement, enfin, le terroriste présumé, pouvait potentiellement mourir. En revanche, de nombreuses personnes allaient pleurer sur la tombe des dommages collatéraux, des personnages morts ou des bâtiments détruits, et le nombre de terroristes augmentait au fur et à mesure. Donc là, on est en présence d'un message, encore une fois, qui est très très fort et qui est conçu comme tel, à savoir, vous pouvez choisir de jouer ce jeu et d'opter pour la violence, mais si vous faites ça, vous allez simplement engendrer plus de violence. Donc là, on a vraiment une intention qui est première, et qui pourtant peut être jouée par plusieurs personnes, comme ça a été le cas, comme un simple jeu de tir. Il y a des terroristes, je tire dessus, cool, il y a plus de terroristes, ben, je tire encore plus dessus. Des joueurs qui peuvent le prendre comme ça, et y trouver un fun, un divertissement.
Mais cette question de la violence dans le jeu me semble être complètement centrale justement à la question de l'intention, puisque la violence c'est souvent un moyen de résolution en fait. Et justement quand on regarde typiquement post 11 septembre le nombre de shooters qui sont sortis, des Call of, des Counter-Strike, blablabla, où on joue des gentils américains qui vont au Moyen-Orient. Et c'est ça qu'on joue, on joue rarement l'inverse, on joue pas... Enfin, c'est toujours très politisé comme contexte dans ces jeux-là.
Beaucoup de jeux aussi prennent pour contexte, la plupart des œuvres en fait prennent au contexte aussi leur lieu de création et le point de vue du créateur. Et c'est exactement pareil pour les films. C'est un problème aussi quand on parle de whitewashing par exemple,
oui.
Des choses comme ça, c'est un peu l'histoire du mec qui gueule le plus fort.
Oui, mais par exemple, il y a aussi sans doute des traditions de jeux vidéo. Alors, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais bon, grosso modo, on a deux pôles de production du jeu vidéo après la Seconde Guerre mondiale et au début du jeu vidéo, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis, on va voir au fur et à mesure de plus en plus de jeux type shooter naître dans le contexte de l'armée américaine, de la lutte contre le terrorisme, etc., où le fait de tuer est complètement objectifié, déshumanisé, et c'est juste ça fait de gagner de l'XP et du loot. Ouais. On voit pas des choses comme ça au Japon. Enfin, j'ai aucun exemple à l'esprit de jeu qui va reprendre un contexte militaire japonais ou même autre que japonais de manière très réaliste. Alors on va avoir des choses dans des mondes fantasmés, ouais. Mais...
Il y a quelques simulations militaires, donc plus du côté de la stratégie, comme Nobunaga's Ambition, qui est un peu un ancêtre de Shogun Total War, mais fait par des Japonais. Après, au Japon, alors c'est marrant, tu parlais du camp post-11 septembre, mais pré-11 septembre,
ouais.
Donc je dirais même pré-2000, 90% des shooters américains se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, quasiment. Bon, j'exagère, je donne un chiffre au hasard. Mais les premiers Call of Duty, c'est Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Il y avait quoi d'autre? Day of Defeat.
Medal of Honor.
Medal of Honor, tout ça, c'est Seconde Guerre mondiale. Wolfenstein, ouais. Etc.
Oui, mais du coup, quelque part, l'engagement politique d'une œuvre, ou du moins le message politique qu'il va transmettre, est aussi très dépendant du contexte dans lequel l'œuvre elle-même est créée. Oui. Ce qui est le fardeau de toute œuvre, hein, c'est qu'elle est de toute façon imprégnée telle une éponge de l'ambiance de l'univers, du contexte dans lequel elle a été créée, aussi bien dans le temps que géographique, là on enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça se reflète également dans le jeu de rôle, dans tous les types de jeux, et je pense que c'est des choses dont il faut avoir conscience,
que
quand on joue à Call of et qu'on défonce des talibans en étant des « Hell yeah !» et tout ça, c'est porteur de quelque chose, et c'est porteur d'une histoire, et c'est pas anecdotique.
Ouais. J'ai pas joué à la série des Call of. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Alors, il y a un truc, c'est que je crois que il y a eu quoi sur les Modern Warfare, il y en a dû y avoir que les deux premiers qui se passaient au Moyen-Orient, ou un truc comme ça. Et après, l'ennemi était très souvent une puissance symétrique, genre la Russie.
Oui.
Très intéressant.
Ce qui reproduit autre chose encore.
Ce qui reproduit autre chose, parce que le contexte actuel, en plus, c'est plus que la guerre froide. La Russie, en ce moment, elle fait pas mal parler d'elle, des choses comme ça.
Après, ce qu'on pourrait évoquer pour se resituer dans un contexte on va plus se rapprocher de la métaphore ou du ressenti. Ce qui peut être un outil très important pour faire passer un message aussi, c'est la notion finalement de débriefing. C'est-à-dire que quand on joue à un jeu, on peut essayer d'en tirer, donc soi-même, soit par le biais d'un animateur. Ok, maintenant on a joué à quelque chose, quel lien est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'on peut faire de cette chose par rapport au monde réel ou à notre propre expérience ? Donc si on prend par exemple des jeux de rôle, donc si on prend par exemple les jeux White Wolf, donc si on prend ne serait-ce que Mage Monde des Ténèbres, il est induit que les mages qu'on joue quand on décide de jouer un mage sont finalement des communautés sur le déclin. Ils ont des communautés généralement admises comme étant faibles et discriminées par la puissance en place, à savoir la technocratie. Donc on peut se mettre dans cette situation de minorité discriminée, de minorité qui subit des choses sans nécessairement être dans un monde qui est réel, même si le monde des ténèbres se base sur notre monde et en particulier Mage qui est contemporain à notre monde actuel en théorie. Est-ce que justement cette métaphore, ce symbolisme peut avoir un impact sans nécessairement permettre aux gens d'être dans... Du trop réel qui pourrait leur nuire.
Mais ça, moi, ça me rappelle vachement ce que tu dis. Enfin, même le pitch, c'est extrêmement proche de ce qu'on peut retrouver, par exemple, avec Cyberpunk. Donc Cyberpunk, un mouvement littéraire né dans fin des 70, début 80, qui a donné tout de suite lieu à des adaptations en jeux de rôle. Et notamment, le pitch de base, c'est dans le style Cyberpunk, les personnages principaux sont des héros désabusés qui vivent dans une société au capitalisme rampant, avec la technologie,
dégénérée
et surtout la surconsommation, les trivides, les trucs comme ça. Et quand dans les jeux de rôle, on joue toujours dans Shadowrun, les runners, dans Cyberpunk, voilà, les edge runners, tout ça, toujours souvent des jeunes qui vivent en marge de la société, qui sont issus de communautés pauvres et qui en fait vont devenir des mercenaires ou des criminels pour la survie.
En fait, ces jeux-là vont reproduire de manière symbolique une empathie, vont tenter de reproduire une empathie chez le joueur pour les personnages.
Et ça me fait aussi penser à une définition de la SF, qui était que la SF est un mouvement littéraire qui vise à dénoncer les dérives d'une technologie ou d'une...
société.
Ou d'une société, exactement. Ouais. Et je pense que le mouvement cyberpunk est au cœur de ça.
Oui, je pense en effet qu'il y a de ça. De toute façon, je ne saurais pas du tout dire qui, mais j'avais vu également une définition de ça qui se rapproche, c'était que la SF visait à pousser à l'extrême et à montrer l'absurdité de certaines dérives et certaines pratiques de nos sociétés contemporaines. Voilà. Donc ça, on le retrouve complètement. Mais c'est assez intéressant parce que, mine de rien, quand on crée un jeu de rôle, décider de qui est la catégorie de personnages que les joueurs peuvent incarner, c'est hyper orienté et ça a un poids hyper lourd. Si je décide que les joueurs jouent forcément une communauté qui subit des discriminations ou une communauté très puissante, ou si vous jouez forcément des gens d'un côté politique ou voilà, qui sont d'un côté de la balance, on va dire, ça a un poids très important sur le propos du jeu, sur les questions que les joueurs vont se poser. Si c'est un joueur où on joue que des stratèges militaires, où vous jouez tous des gens qui font partie du corps militaire de tel pays qui est en guerre, déjà, vous vous posez d'un côté et pas de l'autre. Voilà, je pense à des jeux, notamment, alors j'ai pas de nom à l'esprit, mais des jeux orientaux, j'ai perdu le nom, où on joue pendant une guerre, bref. Et voilà, vous jouez les soldats de tel pays. Donc forcément, c'est votre côté, entre guillemets. Ouais. Vous êtes d'un côté bien précis, il y a un manichéisme qui se crée déjà.
Alors, on quitte un peu le ludisme, mais j'ai lu un article qui est très intéressant sur la notion d'empathie et Avatar.
Avatar, le film ?
Non. Avatar, un avatar virtuel.
Avatar, le dernier maître de l'air ?
Non plus. non. En gros, c'était des études faites justement sur l'empathie et la perception de la différence. D'accord. Et le truc, c'était, ils vous ont fait passer des gens, des petits tests, questionnaires, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais dont le but était de définir un peu le niveau de racisme de la personne. Et c'est-à-dire, est-ce qu'elle a des réflexes racistes, des réactions racistes, des trucs vraiment qui peuvent être quotidiens, ce qu'on appelle le racisme quotidien, des choses comme ça. Et ensuite, ils ont fait jouer à ces personnes-là avec un casque de réalité virtuelle et des choses comme ça, avec des avatars, et donc la moitié des personnes, en fonction des résultats, pour que ça soit plus ou moins réparti, avait un avatar de sa propre couleur de peau, Sachant que je crois que ça s'est passé en Norvège, donc voilà.
Ouais.
Ma grande majorité blanche, etc. Et l'autre avait. Et l'autre moitié, donc, avait des avatars de personnes de couleur. Ils ont refait passer un questionnaire à peu près similaire, évidemment pas qu'il y ait tant les mêmes questions et les mêmes réponses aux personnes après. Ils se sont rendus compte que justement, les gens qui avaient joué un personnage de couleur avaient une tendance à être moins racistes, entre guillemets, que ceux qui avaient un avatar de leur propre couleur. Et ça, d'accord. C'est un résultat en plus direct. C'est-à-dire que c'est un test qui s'est déroulé sur quelques jours au maximum. Donc c'est déjà impressionnant le résultat que ça peut avoir.
Ouais. Donc mais je pense qu'au final quelque part on reproduit un peu cette expérience dans du jeu de rôle. Ça y ressemble vraiment parce que ton personnage ça n'est ni plus ni moins qu'un avatar.
Exactement.
Donc et quelque part quand tu joues, bon je vais prendre un exemple marronnier. On joue à un jeu médiéval fantastique. Il y a plusieurs joueurs à table. un joueur masculin va jouer un personnage féminin et ce personnage féminin sera confronté au machisme et au sexisme de la société médiévale où on dit que bah non, une femme elle a pas le droit de travailler et puis elle doit se marier, tatatitatata. Bah, peut-être que ça va avoir un impact sur l'empathie, justement, sur une prise de conscience pour, vis-à-vis de ce contraste qui se crée entre le joueur et le personnage et le traitement des différents personnages.
Donc tu veux dire où on va répondre ah bah tiens, je ne peux pas faire ça, là où avant on aurait répondu ah bah tiens, elle ne peut pas faire ça. Le fait de s'identifier permet d'avoir une.
Ou alors tout simplement d'avoir un MJ qui dit bah là, voilà, telle personne arrive en face de ton personnage et je sais pas moi. Ou si le personnage subit des traitements sexistes, un mariage forcé ou machin, ou des réflexions, où on lui dit bah non, tu peux pas devenir capitaine parce que t'es une femme, bah le personnage, je pense qu'il va peut-être ressentir une. Enfin, le joueur, pardon, il va peut-être ressentir une frustration de se dire bah attends.
Pourquoi moi j'ai pas droit à ça ?
Pourquoi moi j'ai pas droit, ouais.
Il y a un peu ça aussi, c'est dans le jeu de rôle Elric, il y a le nom, je sais plus lequel. Enfin, le vieux là, celui des années 80.
Elric,
d'accord. où ton personnage, si je me trompe pas, était tiré entièrement au dé. Entièrement au hasard, et donc il pouvait mourir dès la création. Avec des trucs genre, truc d'origine, ok, tu es là-bas, et telle période, et il y a eu la peste. Ah bah t'es mort.
D'ailleurs, dans ce jeu, dans la version contemporaine, du moins, qui s'appelle. Alors je crois que c'était Elric Stormbringer.
Ouais, ça devait être plus
Et celui, le contemporain, s'appelle Manblade. Et tu as également, et on le retrouve dans énormément de jeux, des malus, genre des malus sociaux. Si tu fais partie d'une certaine race, ou si tu viens d'un certain endroit.
Tout à fait.
Et ça, pareil, c'est des choses qui sont assez régulièrement mises, qui sont. Je sais pas si c'est intentionnel de la part des créateurs, parce que c'est assez banal maintenant d'avoir ce genre de choses, surtout dans des univers medfan assez riches, mais c'est pas anodin non plus, quoi. Ouais. Si tu fais le choix d'avoir un personnage qui fait partie d'une communauté discriminée, ça va avoir une influence, un impact, et peut-être un éveil de conscience quelque part, je ne sais pas.
Après, souvent, dans les jeux comme ça, avec des systèmes de communautés, t'as un peu un équilibrage. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu un pierre-feuille-ciseau où toutes les communautés représentées ont des copains et des ennemis. Moi, je pense à Eclipse Phase, par exemple, où ton personnage jongle, en fait, avec la réputation qu'il a entre les différentes corpos et organisations.
Après, tu peux avoir des cas plus... finalement... plus standard, comme dans Shadowrun, tu incarnes un troll dans Shadowrun, tu vas clairement être discriminé. C'est-à-dire que tu vas en chier, voilà, exactement. Tu vas avoir une image de personne qui va avoir des métiers physiques, de videur ou des choses comme ça, et tu vas du coup avoir des problèmes pour t'intégrer et te faire des amis, quoi, potentiellement.
Ça me rappelle la question de est-ce que Donjons & Dragons est fondamentalement raciste parce que les orques sont méchants, ils sont verts, ils sont pas comme nous, et ils sont forcément méchants.
C'est une bonne question. Après, au niveau du game design et de la création, je trouve ça toujours assez sympa de se pencher sur la question de la résolution des actions et de la façon dont c'est encouragé par un jeu, parce que pareil, ça peut être vecteur d'un message. Je prends l'exemple d'un jeu Doctor Who, alors je ne saurais plus exactement lequel, puisqu'il y en a plusieurs, clairement, dans son système de résolution, privilégiait les actions pacifiques. Pour reprendre un peu la démarche du docteur, alors c'était pas sur le dernier docteur, hein, c'est un jeu qui date d'il y a quelques années déjà, mais du coup voilà, reprendre le côté très pacifique et enfin pacifiste, et donc de privilégier la non-violence. Et c'est assez rare, mine de rien, dans les jeux de privilégier la non-violence, et c'était assez notable, et je trouve que là il y a un vrai côté engagé à essayer de dire, non, c'est pas parce que c'est un jeu qu'on doit résoudre les actions violemment.
On retrouve effectivement des résolutions dans pas mal de... Alors, dans pas mal de jeux d'infiltration, c'est une mécanique qui est assez importante.
En jeu vidéo, donc.
En jeu vidéo, oui. Avec des curseurs assez différents. C'est-à-dire qu'on a des jeux d'infiltration où on peut s'infiltrer, où finalement, ça donne une certaine satisfaction, mais pas forcément beaucoup plus que ça. Par contre, il y a des jeux comme le jeu Dishonored, qui est donc sorti il y a déjà quelques années. Le 2 est sorti il y a très peu de temps, par contre. Dans lequel... le fait de favoriser des résolutions violentes, donc d'aller tuer des gens, et particulièrement des civils, et particulièrement en plein jour, font augmenter le niveau de chaos du monde en général, et va faire augmenter le nombre d'ennemis, la difficulté, la maladie au sein du jeu, etc. Donc le jeu va mécaniquement proposer que la violence, vous pouvez en faire si vous voulez, par contre la violence engendre plus de violence, et engendre le mal. Et l'exemple... d'un jeu qui est sorti il y a finalement assez peu de temps, un peu plus d'un an, qui s'appelle Undertale. C'est un jeu un RPG, donc un jeu de rôle première personne, ou un jeu de rôle en solo, dans lequel on peut faire tout le jeu sans tuer un seul ennemi, sans tuer un seul monstre. Alors que pourtant, sémantiquement, les monstres s'appellent des monstres. Parce que c'est expliqué dans le jeu que les monstres sont juste une race de créatures qui sont différentes. Et le jeu questionne assez souvent le joueur sur pourquoi tu as tué un monstre, en fait, c'est quoi ton problème? Tu es une personne terrible, tu es un meurtrier, pourquoi t'as fait ça? Mais tu peux le faire. Et le jeu joue dessus jusqu'à même proposer une expérience qui s'appelle le run génocide. On annonce la couleur. Donc tu peux éliminer tous les monstres du jeu. Et tu as globalement une fin qui se passe pas très très bien.
C'est un truc qu'on retrouve aussi dans Shadow of Colossus, où t'as ce côté, tu te ramènes avec une jeune fille qui est endormie et tu sais pas trop, et t'as une voix désincarnée qui te dit si tu veux la sauver, il faut que t'ailles tuer les colosses pour moi et tout. Et tu vas te balader dans la nature, c'est très joli, il y a des aigles, c'est très très beau comme superbe jeu. Et t'as ces espèces de créatures majestueuses qui se baladent justement dans la nature. Et tu vas les tuer, et le jeu est génial parce que chaque expérience, chaque combat est unique et absolument génial. Sauf que plus ça va, plus tu as l'impression de tuer juste des animaux qui n'ont jamais rien demandé, quoi. Voir certaines qui ont des consciences et tout, mais qui sont juste là, et t'es un peu l'espèce de tic qui s'accroche et qui les... Tu te sens mal, quoi. Moi, j'ai connu des gens qui ont refusé de finir le jeu parce qu'ils se sentaient mal à chaque fois qu'ils tuaient un colosse.
Ça, alors. C'est très intéressant parce que cette gestion de la violence et de la résolution des actions... Je trouve qu'on a un peu pris pour acquis que le fait que tuer un monstre, c'est bonus, quoi, dans un jeu. Et en particulier dans un jeu vidéo. T'as le loot, t'as l'XP et compagnie. Mais c'est une chose, justement, que j'aime beaucoup dans Skyrim. C'est qu'il y a tout un système de justice qui est hyper relou. Dès que tu tues une personne qui n'est pas identifiée comme un monstre, parce que pour le coup, par contre, tout ce qui est monstrueux, t'en fais ce que tu veux. Mais dès que tu tues un humain, un humanoïde, qui n'est pas explicitement méchant envers toi ou agressif envers toi, t'as la garde qui te tombe dessus. Quand bien même tu le butes chez lui la nuit, qu'il te voit pas, que personne te voit ou quoi qu'est-ce, ça peut clairement te retomber dessus. Ou il y a un garde qui débarque et dit « Oh, je vous emmène en prison » ou alors « Vous payez telle taxe de je sais pas combien, machin ». Et donc là, il y a vraiment... Tu te poses des questions en tant que joueur, tu dis « Ah, tiens, faut que j'ajuste mes habitudes de jeu où je peux pas trancher tout ce qui me tombe sous la main. Faut que je fasse attention. Après, on tombe dans le stéréotype du « Il y a un dragon qui a attaqué le village, j'ai tué une chef sans faire exprès et je finis en prison. » Mais n'empêche que c'est un système de résolution par la violence un peu plus subtil et qui est peut-être un peu plus humanisant, qui force le joueur à se rappeler que tuer des gens, c'est pas cool quand même, quoi.
À ce moment-là, j'ai envie de faire juste une petite parenthèse sur un petit coup de cœur que j'ai eu vidéoludique récemment, c'est Fury, fait par The Game Bakers. C'est un peu similaire à Shadow of Colossus dans le sens où, sur deux points, déjà d'une, c'est un jeu qui n'est composé que de combats de boss. Voilà, chaque niveau est un boss. Et la deuxième chose, c'est que plus tu progresses dans le jeu, spoiler alert, plus tu te demandes est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est justifié. Au début, t'es en prison, le premier mec contre qui tu te bats, c'est une grosse craquelure. Il t'insulte, il dit « ça me fait tellement plaisir de te voir souffrir », des trucs comme ça, classique. Et plus tu avances et plus tu tues les boss, et plus ils sont en train de te dire « mais on a essayé de t'aider, on te propose une porte de sortie, pourquoi tu fais ça ?» gros spoiler alerte, là je parle carrément de la fin, vous pouvez rouvrir dans à peu près 15 secondes.
Je ferme mes oreilles.
C'est que Le dernier boss ne se défend pas.
Fin de la spoiler alerte.
Voilà.
En effet.
C'est assez violent.
Et ça me fait aussi penser un peu à Braid, qui, pour moi, est un jeu à message. Bon, alors, très honnêtement, j'ai pas aimé le jeu, ça m'a gavé, parce que moi, les platformers, c'est pas ma tasse de thé. Mais n'empêche que donc, c'est un jeu où on doit sauver la princesse. Clairement. Où on doit reconstituer une histoire pour sauver la princesse. Du moins, c'est ce qu'on croit au début. Puis plus on avance dans le jeu, puis on va se rendre compte que, bah non, en fait, c'est qu'on était en... Alors on était ensemble avec la princesse et puis on s'est séparés et du coup là faut la récupérer quoi, faut la reconquérir. Voilà, vous êtes dans l'optique de reconquérir la personne que vous aimiez, etc. Alors il y a tout le jeu est basé sur un système de revenir dans le temps, donc de gérer le temps. Donc justement c'est très intéressant de se poser la question du rapport au temps dans une relation amoureuse. Il veut revenir au passé, bref. Et puis spoiler alert, quand vous arrivez à la fin, ben on vous redéroule toute l'histoire dans le sens inverse. Et vous vous rendez compte qu'en fait, bah, vous êtes un agresseur pour la femme, enfin, vous êtes un harceleur en fait. Donc tout de suite, bah, ça donne une lecture très différente et je pense, enfin oui, j'ai tendance à penser que bah, c'est fait quand même pour se poser un peu des questions sur bah, déjà le rapport aux femmes, au couple, au consentement, à la rupture, etc., et, mais aussi sur la narration d'une histoire. Sur, attention, on peut vous raconter n'importe quoi si ouais. C'est présenté n'importe comment.
Et puis même, ça va au-delà de ça, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur un truc sur lequel je voulais rebondir, mais on est passé assez rapidement sur autre chose, c'est sur le fait que on n'est que des êtres humains. Quelque part, on crée aussi nos propres histoires. C'est-à-dire que, je voulais dire ça par rapport aux auteurs, hein. Les auteurs sont des êtres humains, nous ne sommes que la somme de nos expériences, voilà, pour citer un philosophe, entre autres.
Dont on a oublié le nom.
Je crois que Foucault avait un truc dans le genre.
Peu importe.
Et en fait, quelque part, bah, beaucoup de gens, je pense, n'ont pas forcément conscience de faire le mal. Et comme beaucoup d'auteurs n'ont pas conscience d'avoir des jeux engagés, parce que simplement, ils font leur jeu en fonction de leur vécu. Et pour l'exemple de Braid, c'est que bah, le personnage principal de Braid, quelque part, a réécrit l'histoire pour que ça l'arrange lui, quelque part.
Oui. Et puis aussi, comme tu dis, c'est une façon de prendre conscience des acquis comportementaux en jeu. Typiquement, je ne suis pas sûre que un créateur de jeu lambda qui crée un RPG lambda se dise, quand il est en train de calculer la quantité d'XP qu'il va mettre sur chaque monstre tué, je suis pas sûre qu'ils se disent « Attends, là, je suis quand même en train de promouvoir un acte violent. » Voilà, c'est peut-être pas assez systématique.
Je pense que c'est... petite parenthèse dans les podcasts, j'étais en train de regarder sur Internet parce que vous avez parlé de Braid.
Oui.
J'avais lu une analyse il y a quelques temps comme quoi Braid en fait aurait une troisième lecture qui serait en fait que Braid serait une histoire qui porterait sur la conception de la première bombe nucléaire. Donc j'ai pas détaillé la chose, donc j'invite nos auditeurs les plus curieux à peut-être un petit peu creuser le sujet. Donc est-ce un canular, est-ce vrai, je ne sais pas, je vous laisse le mythe se propager. Donc voilà, petit suspense, vous voyez que notre podcast est préparé au poil. Et donc je pense que ça interroge un peu la vocation du concepteur, des concepteurs de jeux à vouloir créer des jeux qui ont justement des ambitions et des messages.
Oui.
Est-ce que, donc, pour reprendre ce que tu disais, Guylaine, pour reprendre Undertale, là, le créateur s'est dit, ok, bah, on va partir sur les codes existants. Dans Undertale, on a de l'XP, on a des LV, donc LV, certains penseront que c'est level, sauf qu'en fait, peut-être que la signification n'est pas exactement celle à laquelle on s'attend, mais je ne spoilerai pas pour ne pas gâcher la surprise. Mais... en tant que concepteur, ça peut être intéressant de se dire, ok, bah, qu'est-ce que va porter mon jeu? Est-ce que je vais prendre un paradigme qui existe? Ou est-ce que je vais essayer de me questionner? Et là-dessus, il y a notamment assez fréquemment des game jams qui sont organisés. Donc des game jams, c'est des événements de création de jeux. Donc peut-être plutôt jeux vidéo, mais adaptables aux jeux de société et jeux de rôle aussi, sans problème. Hein. Le game chef étant un événement de création de jeux de rôle ou de jeux... un peu libre, un freeform, voilà. Donc bon, bref, pendant ces game jam, on peut imposer un thème, on peut proposer ou imposer un thème, et certaines game jam se disent, bah ok, on va faire un thème de game jam d'impact, hein, de game jam d'expression autour d'un thème donné qui peut avoir une portée politique. Donc comme une game jam, alors c'est une game jam que j'avais organisée il y a 2 ans, donc du coup je me permets d'en parler, c'était une game jam sur les attentats de Charlie Hebdo. Parce que je, à titre personnel, j'estimais qu'une création vidéoludique pouvait être un médium d'expression par rapport à des événements, tout comme le dessin pouvait l'être, de nombreuses caricatures ont été faites.
Une forme d'art-thérapie.
Exactement, d'art-thérapie ou d'expression de au-delà du traumatisme, d'expression d'une situation assez complexe et assez terrible sur laquelle pourquoi le jeu ne serait pas un médium plus légitime ou aussi légitime, à minima, hein, que le livre ou le dessin pourrait l'être, par exemple. Et ce genre d'initiative permet en fait de se poser des questions dans un cadre précis.
Oui, mais ça, alors c'est, je pense qu'en effet, dès qu'on va du côté de la création indépendante, de la création en jam, typiquement Game Chef pour le jeu de rôle, là on trouve pas mal de jeux à message, à questionnement du moins. Mm-hmm. À défaut d'être un message, au moins à questionnement. Mm-hmm. Où le but, ça va être de se faire se poser des questions aux joueurs. Le thème de l'année dernière, c'était technologie en Game Chef, donc c'est quand même très propice à développer des questions comme ça. Et on peut également citer l'anthologie hashtag Féminism en jeu de rôle, où une bonne quantité des jeux a pour but de se faire se poser des questions sur le féminisme, machin, les rapports hommes-femmes, etc. Donc au final, comme tu dis, le jeu est un médium comme un autre pour se faire se poser des questions et faire passer un message. Et il a aussi, pour le jeu de rôle, cet avantage que il se fait se poser des questions collectivement. On n'est pas juste tout seul devant son écran à se prendre le message dans la tronche. On est 4 ou 5 par hangout autour d'une table. On va pouvoir en discuter, on va pouvoir voir la réaction les uns des autres. Et en ça, je pense que c'est très riche comme vecteur de message.
Et on est aussi dans l'expérimentation directe, dans l'expérience directe.
Oui.
Voilà, quand tu joues un jeu, tu résous des problèmes et tu ressens les choses. C'est au-delà de se poser des questions. Je pense.
Ouais. Et en ça, dès qu'on va du côté aussi du GN, alors plutôt les GN courts, GN nordiques, etc., qui vont être, comme je l'ai dit il y a peu, du fast-food à émotion, sans que ce soit péjoratif, là aussi, on peut aller très très vite dans des... Parce que le principe de base va être l'empathie avec ton personnage, on va être encore plus dans l'expressivité en GN qu'en jeu de rôle, et là, on peut très vite être dans des jeux avec des propos très très forts... Que ce soit politique, social, on peut avoir vraiment beaucoup de choses, une très grande richesse de ce côté-là.
Et alors, est-ce que du coup, ça ne serait pas justement une très bonne transition pour notre prochain épisode, qui sera donc toujours sur jeux de rôle et politique. Donc vous avez vu, cet épisode était un petit peu plus long que les précédents, mais parce qu'on a décidé de faire quelque chose d'un peu plus long. Donc on espère vous avoir intéressé pendant toute cette période. Et donc le prochain épisode sera toujours sur cette thématique-là, mais plutôt sur la politique au sein d'un cercle de jeu, donc au sein d'un envie, d'une bulle de jeu. Donc par exemple, la reproduction de rapports de domination au sein d'une table, hein, entre la notion de maître-jeu, personnage-joueur, etc.
Donc on vous prépare un petit peu pour les élections, hein, c'est ça le but. Hein. non, c'est juste que le contexte nous paraissait propice pour en parler. Donc on espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires s'il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou à l'inverse, si vous voulez juste rebondir dessus, n'hésitez pas.
Ok. Très bien, je pense qu'on a fait le tour alors, jusque-là. Eh bien, en attendant, jouez bien.
À bientôt.
Et à bientôt.
À bientôt.